Cette nuit, les troupes soviétiques ont occupé la Tchécoslovaquie. Le gouvernement de Prague a demandé à la population qu'aucune résistance ne leur soit opposée. L'événement s'impose dans sa terrible simplicité. 12 ans après avoir écrasé par les armes la révolution hongroise, les armées soviétiques étranglent la libéralisation tchèque. Sans doute, il semble que cette fois, tout se passe dans l'ordre, comme se fit dans l'ordre en 1939 l'entrée des troupes hitlériennes dans ce malheureux pays qui s'enivrait depuis 8 mois d'un espoir de liberté. Simplement, aujourd'hui, les alliés du pacte de Varsovie fournissent à l'URSS le triste alibi de leur présence armée. Vous me pardonnerez de ne point revenir sur l'histoire de la Tchécoslovaquie depuis le jour où, en janvier dernier, le vieux stalinien Antony Novotny dut laisser la place à un représentant de la jeune génération communiste, un homme de 46 ans, ancien forgeron aux usines Skoda, Alexandre Dubček. Dans ce pays, le plus évolué politiquement et économiquement de l'Europe de l'Est, où depuis l'effondrement de l'Empire austro-hongrois il y a un demi-siècle s'était implantée une sorte de démocratie que l'Allemagne nazie assassina, dans ce pays les portes de la liberté ne pouvaient rester entrouvertes. Ce fut l'explosion. Les nouveaux dirigeants tchèques, à bon droit conscients, on s'en rend compte aujourd'hui, des dangers que cette libéralisation pouvait attirer sur leur tête, s'efforcèrent de la contrôler. De Moscou venaient d'ailleurs de plus en plus fréquents, de plus en plus menaçants, de plus en plus pressants les avertissements, jusqu'au moment où, hier soir, les chars russes ont franchi les frontières. Fallait-il, pour Moscou, intervenir ou non? Dans un sens comme dans l'autre, la décision comportait des risques et les dirigeants du Kremlin ont longtemps hésité. Ne pas intervenir, c'était risquer le développement d'une hérésie idéologique et l'éclatement d'un bloc politique, économique et surtout militaire. Je suis pour ma part convaincu que l'état-major russe n'a pas joué un rôle négligeable dans la décision prise cette nuit. Déjà, la Roumanie faisait à l'Est cavalier seul. Malgré son déplaisir, l'URSS ne jugeait pas que les ruades de ce côté-là pouvaient lui faire bien mal. La Tchécoslovaquie, c'est autre chose. Les visites faites à Prague ces jours derniers par le maréchal Tito, le schismatique yougoslave, et par M. Ceausescu, le schismatique roumain, ajoutèrent aux inquiétudes des soviétiques. Un bloc était en train de naître, et l'exemple tchécoslovaque risquait de devenir contagieux dans des pays comme la Hongrie, la Pologne et l'Allemagne de l'Est, où le communisme ne s'est plaqué que sur une population hostile. Je me trouvais en URSS il y a un mois. Plusieurs fois, il m'est arrivé de parler de la Tchécoslovaquie avec des Russes. Je dis bien des Russes, et non pas des Soviétiques. Ils ne se préoccupaient en aucune façon, croyez-moi, de la fidélité au marxisme-léninisme. Il s'agit des gens de la rue, bien entendu. Leur réaction était un peu celle des Français qui, hostiles à la décolonisation, disaient il y a quelques années « on est en train de brader l'Empire ». La Tchécoslovaquie appartient au domaine russe et voilà tout. Il faut dire que du point de vue stratégique, ce pays représente une pièce maîtresse du dispositif soviétique. À l'ouest, elle touche à l'Allemagne, à l'est, à l'URSS. Que cette pièce vienne à manquer, et voilà l'Europe communiste coupée en deux. Le désir manifesté récemment par les dirigeants de Prague de se rapprocher économiquement des nations occidentales a précipité la décision du Kremlin. Dans la balance des risques, quels sont ceux que font courir à l'URSS son intervention militaire? D'abord, un conflit armé avec la Tchécoslovaquie. Ce pays, semble-t-il, a compris qu'il ne pouvait le soutenir. Tout se passe comme s'il avait renoncé à une résistance impossible. Les Russes imposeront sans doute un remplaçant à M. Dubček, comme ils avaient imposé en Hongrie, il y a 12 ans, M. Janos Kadar. Et encore, ce n'est pas sûr. Une guerre de plus grande ampleur est tout à fait invraisemblable, comme elle l'était en 1956. La première personnalité étrangère que Moscou ait pris soin d'avertir s'appelle le président Johnson. L'Europe de l'Est fait partie, depuis Yalta, du domaine soviétique. Les Américains se garderont d'intervenir. La contrepartie de la Grande Alliance, fondée sur l'équilibre atomique, sur l'équilibre de la terreur, c'est que les deux grands peuvent impunément écraser les petits. En fin de compte, l'URSS ne court donc apparemment aucun risque, hormis celui que représente pour elle l'éclatement d'une crise profonde dans les partis communistes occidentaux, notamment en France et en Italie. Monsieur Waldeck-Rochet s'était, vous vous en souvenez certainement, rendu à Moscou, il y a un mois, pour plaider la cause des Tchèques. Il faut donc s'attendre à de sérieux soubresauts, à Paris comme à Rome. Les événements de cette nuit portent un coup mortel à la thèse dite des voies multiples, selon laquelle chaque pays peut réaliser le socialisme comme il l'entend. La réalité brutale s'impose à tous. Pour les soviétiques, il n'existe qu'une voie, la leur. Quant au Parti communiste, de France, d'Italie et d'ailleurs, ils sont pour messieurs Brejnev et Kosygine le cadet de leurs soucis. Ils échangent bien volontiers le crédit de monsieur Waldeck-Rochet et de tout son comité central contre le malheureux et courageux petit pays qui, dans le demi-siècle de sa brève histoire nationale, a connu 30 ans de servitude. Frères, quand vous entendrez l'hymne national, vous saurez que tout est fini. Quelques instants après que le speaker de Radio Prague, à 7h36, hier matin, eut prononcé ces paroles, les premières mesures éclataient. Pour la troisième fois en 30 ans, 1938, 1948, 1968, la liberté mourait en Tchécoslovaquie. Le peuple de ce pays oppose aux armées de ses envahisseurs une extraordinaire dignité. C'est à ce mur que se heurtent les nouveaux occupants. Les Russes trouveront-ils les hommes capables d'exécuter leur besogne, tel ce Konrad Henlein dont Hitler avait fait un Gauleiter ? Sans doute. Et encore, le sait-on. La trahison n'attend jamais bien longtemps les caresses. Pourtant, il faut sauver la face, présenter quelques individus point trop obscurs qui osent par-dessus les chars soviétiques exiger l'obéissance de l'armée nationale, demander aux ouvriers de reprendre le travail et regarder les étudiants dans les yeux. Or, il semble bien que devant ce peuple brisé mais fier, occupé mais résolu, les volontaires ne se pressent pas au guichet du quartier général russe. On attend encore celui qui acceptera d'être le Kadar, l'Ulbricht, le Jivkov, le Komulka de la Tchécoslovaquie asservie. C'est que l'URSS, en déployant ses forces, vient d'avouer sa faiblesse. Ne nous méprenons pas sur ce paradoxe. Seconde puissance du monde après les États-Unis, elle dispose d'une colossale armée. Mais chaque avion qui atterrit à Prague, chaque tank qui franchit la frontière démontre un peu plus la fragilité d'un régime qui doit recourir à de tels moyens pour s'imposer. Socialisme, terre promise des prolétaires, où les hommes vivraient fraternels, voilà qu'il te faut des canons pour faire le bonheur de tes peuples. Mais tandis que la cendre tombe, ailleurs se prépare à briller la faible et vacillante flamme de la liberté. Ce fut la révolte des ouvriers de Berlin-Est, puis le bel automne polonais, puis la révolution hongroise, puis la libéralisation roumaine, puis l'éclatant et bref printemps tchécoslovaque. Où donc maintenant ? Il faut qu'elle soit vivace, cette petite flamme, vous ne trouvez pas ? Nulle vestale en titre ne l'entretient. Dans le monde entier, chaque fois qu'on l'écrase du talon, ce sont des cris d'indignation. Et puis on en reste là. Le président Johnson demande aux Russes de rentrer chez eux, comme les Russes invitaient, il y a quelques années, les Américains à mettre fin à leur expédition contre Saint-Domingue. Mais ce sont des glapissements pour la galerie. Toi chez toi, moi chez moi. Voilà la règle. Et si de temps en temps le téléphone rouge fonctionne, c'est pour résoudre des problèmes qui leur compliquent la vie à tous deux. Pour le reste, il suffit de s'informer par la voie diplomatique, comme ce fut le cas l'autre nuit. Cette coexistence dite pacifique, fondée sur la puissance atomique, les Américains et les Russes s'en accommodent parfaitement. Au fond même, ils la préfèrent à l'autre, à laquelle rêvait le général de Gaulle, et qui vient de s'écrouler en même temps que l'indépendance de la Tchécoslovaquie. L'Europe de l'Atlantique à l'Oural, vous vous souvenez. Le communiqué publié hier à Colombey, après la réunion à laquelle participaient messieurs Couve de Murville et Michel Debré, le communiqué qui déplore, c'est le mot employé, le drame qui vient de se dérouler, est aussi l'acte de décès d'une politique. Bien que le général ne manifeste pas officiellement l'intention de chercher de nouvelles voies, les événements l'inciteront peut-être à envisager enfin sérieusement de donner sa chance à l'Europe occidentale, qui reste impuissante et divisée. Je disais tout à l'heure que le régime soviétique devait, contre toute apparence, se sentir bien faible pour s'imposer par les moyens de la terreur. Cette faiblesse, les convulsions que va provoquer dans le monde communiste ce nouveau coup de Prague ne peuvent que l'aggraver. Sans doute, les durs du parti russe viennent-ils de triompher. Ils ont repris leur monde en main. Mais on dit que M. Alexis Kosygine et M. Michel Souslov se sont opposés à M. Léonid Brejnev. Les Yougoslaves, et avec beaucoup de courage les Roumains, donnent de la voix. Le parti communiste italien proteste, et voilà que pour la première fois depuis sa fondation, il y a donc près d'un demi-siècle, le parti communiste français se sépare de Moscou. C'est un numéro historique que publie ce matin l'Humanité. Sur toute la largeur de la page, on lit ceci. Le Parti communiste exprime sa surprise et sa réprobation. M. Waldeck-Rocher, en juillet dernier, avait prévenu les dirigeants soviétiques. Toute intervention militaire en Tchécoslovaquie entraînerait un désaveu du PC. On a préféré à Moscou l'intégrité de l'Empire à l'amitié des communistes français, et l'on compte peut-être que ceux-ci, ayant ainsi manifesté leur indépendance, rentreront dans la discipline. S'il agissait ainsi, le PC français, qui en tout état de cause va subir le contre-coup de l'agression soviétique, se suiciderait. M. Waldeck-Rocher le sait bien, lui qui joue toute sa partie sur les principes dont l'URSS vient pour son compte de démontrer l'inanité, de la non-ingérence dans les affaires des partis frères et de la multiplicité des voies d'accès au socialisme. Les communistes français, comme les Italiens, ne peuvent sauver leur parti de l'isolement et de l'éclatement qu'en tenant avec fermeté les positions qu'ils ont adoptées hier. Mais cela signifie, chacun le comprend, que le PC rompt avec Moscou. Après le grand schisme chinois, voici que s'annonce le grand schisme européen. La petite flamme de la liberté, elle a peut-être commencé à palpiter à Paris, dans ce parti qui reste encore si imprégné de stalinisme, au moment où à Radio Prague, une voix blanche disait « Frère, tout est fini ». Parmi ses héros nationaux, le peuple tchèque a placé Jean Hus et le brave soldat Schweik. Le soldat Schweik jouait les imbéciles pour ne pas obéir aux ordres. C'était un garçon très intelligent. Quant à Jean Hus, debout sur son bûcher d'hérétique, il s'écria, apercevant une paysanne qui apportait son fagot, « Ô sainte simplicité !» En ces deux personnages se retrouvent plusieurs qualités de la nation tchèque. La fermeté de cœur, le courage tranquille et la finesse. Les soviétiques en font depuis 3 jours l'expérience. Leur intervention n'a pas déclenché une révolution romantique, analogue à celle qui avait embrasé la Hongrie il y a 12 ans. Devant eux se tient un peuple entier, silencieux, déterminé, qui fait semblant de ne pas comprendre. La résistance tchécoslovaque est impressionnante. Dans la rue, des jeunes gens s'asseyent devant les chars russes. Dans son palais cerné par les troupes, le président de la République, le vieux général Svoboda, ne courbe pas la tête. L'Assemblée nationale a décidé d'interrompre ses travaux jusqu'à la libération de M. Alexandre Dubček, arrêté par les Russes. Le comité central du Parti communiste menace les occupants d'une grève générale. Quant à l'armée tchécoslovaque dans ses quartiers, elle reste fidèle au gouvernement légal du pays. Tous les témoignages concordent. Les soviétiques ne s'attendaient pas à cela. L'improvisation, qui semble-t-il, a présidé à la mise en route des opérations politiques et militaires le prouve. Sans doute, les dirigeants de Moscou s'imaginaient-ils que devant le déploiement de leurs forces, toute velléité de résistance s'évanouirait et qu'il leur suffirait de se baisser pour trouver dans leur ruisseau des hommes prêts à former un gouvernement de trahison. Stupéfaits, ils ont constaté qu'il leur faudrait tout faire eux-mêmes. Depuis mercredi, ils cherchent des bonnes volontés et ils n'en trouvent pas. Même ceux que l'on savait être des adversaires de M. Dubček ont démenti qu'ils eussent sollicité l'intervention soviétique. Le commandement russe a donc lui aussi menacé. Si les Tchèques ne se décident pas à former un gouvernement, lui-même s'en chargera. C'est ici que le comique rejoint la tragédie, que le brave soldat Schweik retrouve Jean Hus. Voici une armée gigantesque disposant de tous les moyens de répression, impuissante devant des jeunes gens aux mains nues, un président presque octogénaire, un parti communiste où ne se manifeste aucun collaborateur, des ouvriers qui cessent le travail. Ne nous faisons pas trop d'illusions. La loi du plus fort finira par s'imposer. Encore faut-il savoir comment. On ne massacre pas délibérément un peuple immobile. Les Soviétiques ne trouvent devant eux que le vide. C'est une situation qui, si elle se prolongeait, deviendrait intolérable. Comment aussi imaginer que cette révolte muette puisse n'avoir aucune influence sur les pays voisins de la Tchécoslovaquie? Il apparaît de plus en plus clairement qu'en Pologne, en Allemagne de l'Est, en Hongrie, le communisme n'est accepté que par le tout petit nombre. M. Brejnev et M. Kosygin règnent sur un empire entièrement hostile. Comment peuvent-ils espérer imposer dans ces conditions indéfiniment leur tutelle? Les dirigeants soviétiques ont réagi en impérialistes russes, mais ils ont commis ainsi une très grave erreur, qui peut être mortelle pour l'idéologie qu'ils professent. Ils n'ont pas compris, ou ils ont trop bien compris, que M. Alexandre Dubček leur offrait la seule chance de faire accepter le communisme par les nations occidentales, parce qu'il était ainsi pour la première fois démontré que ce régime était compatible avec la liberté. Mais l'était-il? C'est toute la question. Les Russes, en tout cas, administrent la preuve contraire. Leur intervention signifie qu'à leurs yeux, le socialisme n'est concevable que dans la servitude. Depuis longtemps, M. Waldeck-Rochet, par exemple, s'employait à vulgariser la thèse de la multiplicité des voies d'accès au socialisme. Chaque pays, expliquait le secrétaire général du PC français, peut suivre son propre chemin et nul n'a le droit de lui en imposer un autre. Que vaut aujourd'hui cette argumentation? Vous me direz que l'on se moque à Moscou de ses subtilités. Sans doute. Encore que M. Michel Souslov, l'idéologue du parti russe, de surcroît chargé des relations avec les communistes étrangers, doive se demander avec angoisse comment faire coïncider la théorie et la pratique. On comprend en tout cas la réaction des partis français, italiens, autrichiens, scandinaves. Tout s'effondre autour d'eux s'ils ne parviennent pas à défendre l'expérience de démocratisation entreprise en Tchécoslovaquie par M. Alexandre Dubček. Mais ils ne peuvent la défendre, cette expérience, que contre Moscou. Voilà le drame, car il s'agit bien d'un drame politique, psychologique, affectif même, dans lequel sont plongés les partis communistes occidentaux. Le premier vrai drame, depuis que la mort de Staline les a libérés d'une tutelle pesante, mais commode. S'incliner devant l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, c'est perdre tout espoir, un espoir déjà bien mince, d'avancer vers le socialisme, c'est se couper d'une opinion publique peu à peu conquise aux nouvelles méthodes communistes, c'est retourner à l'isolement, c'est finir enkysté dans une société hostile. Sauvegarder cet acquis, soutenir que le communisme peut être démocratique, c'est rompre définitivement avec Moscou, c'est couper net les 1000 liens politiques et sentimentaux qu'avait tendu l'histoire des 50 dernières années. Quelle voie choisira pour ce qui concerne la France M. Waldeck-Rochet? Le comité central du PC hier a renouvelé la condamnation lancée la veille par le bureau politique. Mais il l'a en quelque sorte accompagné de circonstances atténuantes au bénéfice des soviétiques. C'est là une position intenable. Il faut dire clairement les choses. S'il peut y avoir mariage du socialisme et de la liberté, ce n'est certainement pas selon le rite russe. Un journaliste norvégien, appartenant au journal Aftenposten, raconte qu'il a interrogé dans les rues de Prague un militaire soviétique. « Est-ce dur d'être ici ?» lui demande-t-il. Et l'autre répond « Oui, c'est dur. Nous n'aurions pas dû venir, mais je ne suis qu'un soldat. » Voilà ce qu'ils pensent, les occupants mal à l'aise, honteux. Si mal à l'aise, si honteux que le commandement soviétique doit relever ses premiers détachements et les remplacer par des troupes au cœur moins sensible. Pour la troisième fois depuis 5 jours, le Parti communiste français a affirmé hier son opposition à l'agression russe. Et René Andrieux, dans L'Humanité, ce matin, écrit ceci, je le cite, « L'intervention est injustifiée, l'internationalisme prolétarien est le critérium d'une véritable attitude communiste, mais il va de soi qu'il ne peut naître d'une ordonnance administrative, à plus forte raison d'une intervention militaire. Ce qui frappe, jusqu'à preuve du contraire, c'est la dignité et la sagesse de ce peuple frappé par un sort injuste. » Voilà deux faits qui comptent. Je ne veux même pas parler des réactions dans le monde entier. Vous savez que de tous les points de l'horizon, les condamnations pleuvent. Non, je m'en tiens à ces deux faits. Voilà que les soldats soviétiques s'interrogent sur la valeur de leur mission. Voilà que le Parti communiste français, dont la fidélité n'a jamais fait défaut à l'URSS depuis près de 50 ans, pour la première fois dit non. Quels peuvent bien être les mobiles qui ont poussé les soviétiques à prendre de tels risques, à remettre à la mémoire de tous les heures sanglantes de Budapest, à détruire l'image d'un régime évoluant lentement vers la libéralisation et la coopération internationale, à permettre à un journaliste de gauche, Jean Daniel, d'écrire dans le Nouvel Observateur « L'histoire se souviendra de ce mercredi 21 août où de soi-disant socialistes ont tenté de tuer la millénaire espérance concrétisée à Prague de concilier enfin la justice et la liberté. » Ces mobiles sont de trois ordres. Du point de vue idéologique, les Russes craignent que le retour à la libre expression ne permette à ceux qu'ils appellent les contre-révolutionnaires de se passer de l'imprimature de Moscou et qui sait même d'essayer de rétablir une démocratie à l'occidentale. Du point de vue économique, les Tchèques se rebellent contre le principe de la spécialisation selon lequel chacune des démocraties populaires doit travailler dans des secteurs déterminés pour la collectivité communiste. Cette organisation et le fait que toutes les transactions se fassent en monnaie qu'il est impossible de convertir hors de la zone rouble placent les pays de l'Est européen dans l'étroite dépendance de l'Union soviétique. Se libérer de cette tutelle permettrait aux Tchèques d'établir des relations commerciales avec l'Occident, notamment avec l'Allemagne de l'Ouest, mieux placée pour cela qu'aucun autre pays. Enfin, du point de vue diplomatique et stratégique, l'URSS ne peut se passer du glacis que Staline a constitué au lendemain de la guerre. De la Baltique à la mer Noire, 6 pays sont ainsi chargés d'assurer la protection du sanctuaire russe. La Tchécoslovaquie constitue l'un des principaux ouvrages de ce glacis, qu'il cède et il entraîne l'effondrement de tout le dispositif. Telles sont sans doute les raisons qui ont poussé les Soviétiques à intervenir. Force est donc de faire trois constatations. Ils ont fort peu confiance dans leur idéologie, puisqu'ils redoutent la libre expression. Ils ont fort peu confiance dans leur économie, puisqu'ils redoutent la confrontation des systèmes. Ils ont fort peu confiance dans leur édifice militaire, puisqu'ils redoutent la perméabilité des frontières. Cette triple crainte, devant la fragilité de l'édifice communiste, je la crois réelle. Or, la crainte, nous le savons bien, est mauvaise conseillère en politique. Elle a conduit les Russes à se lancer dans une aventure sans en avoir mesuré les difficultés. Ils ne s'attendaient pas à trouver une nation unanime, déterminée, pathétique dans sa dignité, faisant face à ses envahisseurs. Ils ne s'attendaient pas à devoir chercher sans succès quelques personnages prêts à troquer leur honneur contre des postes. Alors, ils ont commencé de négocier à Moscou avec un vieillard intraitable, le général Svoboda, dont le nom veut dire, en russe, comme en tchèque, « liberté ». Ils ont dû ensuite inviter à la table de conférence cet Alexandre Dubček, ce révisionniste, qu'ils traînaient dans la boue et qu'ils avaient emmené à Moscou sous bonne garde. Depuis trois jours, tandis que la tension monte en Tchécoslovaquie, les conversations se poursuivent, auxquelles vont participer aujourd'hui les alliés de l'URSS, les fournisseurs de contingents d'occupants, les comparses du drame, ceux qui ont peur qu'en Allemagne de l'Est, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, ce qu'on a appelé le printemps de Prague ne provoque le dégel qui les emporterait dans la débâcle. Sortira-t-il de ces pourparlers un compromis? Nul ne le sait. Que les Soviétiques aient reconnu Alexandre Dubček comme un interlocuteur valable constitue une première concession. Mais y en aura-t-il d'autres? Et quelles seront en contrepartie les exigences? Derrière tout cela se livre une obscure mais impitoyable lutte dont ne parviennent que des échos assourdis entre les hommes qui composent cette direction collégiale de l'Union soviétique. Il s'agit de beaucoup plus que d'une rivalité d'hommes. Ce sont deux forces en présence, le passé et l'avenir. Monsieur Alexis Kosygin, c'est la Russie moderne, qui marche vers son développement et qui s'efforce d'ouvrir quelques brèches dans les épaisses murailles du Kremlin. Monsieur Léonid Brejnev, c'est le parti, enfermé sur lui-même, l'appareil rigide qu'il ne faut pas desserrer d'un cran. C'est une terrible partie qui se joue à Moscou. De son issue dépend avant tout, bien sûr, le sort d'une courageuse nation qui donne un extraordinaire exemple, mais beaucoup plus encore que cela. Les négociations de Moscou peuvent laisser entrouvertes les portes de la détente ou rejeter le monde dans cette guerre froide qui fut son lot. quand Staline régnait à l'Est.